Les jardinières.
L'atmosphère se rafraîchit de jour en jour au fur et à mesure que l'hiver s'installe. Les températures sont fraîches, aussi bien en début de matinée qu'au meilleur moment de la journée. Du coup, les activités en plein air, comme le jardinage par exemple, s'avèrent peu reluisantes. Mais tout ça, c'est sans connaître les jardinières. Pluie, vent et même neige, rien ne nous arrête. La preuve, nous sommes là et de bonne humeur, n'est-ce pas Raphaël? Bonjour.
D'excellente humeur, bonjour Mylène. Et lui, il n'a pas hésité à se lever au milieu de la nuit pour rejoindre nos studios dans le froid de l'automne. Frais et dispo pour répondre évidemment à toutes vos questions, c'est Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Attendez, je vais ouvrir le micro, ça sera mieux. Voilà, on recommence.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Tom, Tom le jardinier, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi via son site web, tomlejardinier.com. Vous faites tout ça en un mot. Et vous avez une heure pour lui soumettre vos questions au jardinage. Ça se passe par téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez votre message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Bon réveil. Et soyez les bienvenus parmi les jardinières.
Les jardinières.
Les journées raccourcissent, le soleil se fait discret, la pluie et le brouillard par contre s'en donnent à cœur joie. Alors, à part rêver de rester près d'une cheminée, une tasse de chocolat chaud à la main, que pouvons-nous faire au jardin par ce temps, Tom ?
Eh ben, si on va parler un petit peu de potager parce qu'il n'y a pas rien à faire, si vous êtes heureux possesseur de pieds d'artichaut, on peut un petit peu les protéger du gel. On peut aussi arrêter de faire tous les arrosages, hein. Je pense que le temps s'en occupe pour nous. Pour les légumes qui resteraient au jardin, s'il y a des côtes de bête ou genre de légumes-là, il faut commencer à pouvoir les rentrer. Dans cette famille-là, on peut compter aussi les fenouilles, les kohlraves. Par contre, un légume qui ne se récolte pas encore, c'est les choux de Bruxelles. Ils doivent avoir subi un petit gel avant d'être récoltés.
Je reviendrai juste sur les pieds d'artichaut.
Oui.
Vous dites qu'il faut les protéger, ça veut dire qu'on ne les ramasse pas encore ?
Alors, les artichauts-là, ils sont
j'adore
récoltés.
Manger ça, mais alors j'ai aucune idée de comment ça pousse.
Ça y est, Mylène, vous parlez déjà de manger à 7h10 du matin.
C'est jamais trop tôt ou tard pour parler nourriture, non Raphaël ?
C'est ça, je suis d'accord.
Alors, ce qu'on consomme de l'artichaut, c'est sa fleur. Donc, ça fait une espèce de grande touffe et c'est cette touffe qu'il faut protéger. Donc, moi, je la bute un petit peu pour que le départ des feuilles soit légèrement sous terre pour rassembler un petit peu tout ça. Et puis, après, je lui mets une bonne couche de feuilles mortes. Donc, c'est un matériel gratuit qui fait un bon paillage pour éviter que le cœur de l'artichaut, donc ses feuilles, ne gèlent.
Merci Tom.
Maintenant c'est à vous de jouer et de nous appeler pour poser vos questions, toutes vos questions. Tom est à votre disposition jusqu'à 8h, 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour avoir la chance de nous parler en direct avec notre spécialiste Tom le jardinier. Sinon pour les timides, vous avez toujours l'option SMS, vous tapez jardin un espace votre question et vous envoyez tout ça au 939 ou toujours notre formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Tom le jardinier dans les starting blocks, dans les jardinières, pour répondre à vos questions.
Et je vous propose, Mylène, de débuter avec une question cuisine. Parce que bon, vous en parliez il y a quelques minutes, et ça tombe bien, je crois qu'on est tous amateurs de bonne cuisine. Et entre autres, Tom et c'est Marie de Saint-Ursanne qui aimerait cuisiner un rôti de porc à la sauge. Elle a de la sauge dans son jardin, elle se demande si elle peut utiliser les feuilles, et si elle peut en conserver pour l'hiver qui arrive, et si oui, comment ?
Alors, on va tous mourir de faim avant la fin de l'émission, mais la sauge, ça se récolte quand elle le veut. Normalement, ça ne va pas perdre ses feuilles l'hiver, donc même si elle peut le récolter pendant l'hiver, comme ça, elle a de la sauge fraîche pendant tout l'hiver, ça ne pose pas de problème.
C'est une très bonne nouvelle.
On peut la laisser sur l'arbuste, comme on appelle ça, plante.
Sur la plante vivace, elle peut pas... La laisser comme ça, elle résiste bien au gel et puis elle pourra la récolter quand elle en a besoin.
Ce qui est plutôt pratique. On va parler de topinambours. Josh a planté des topinambours le long de son jardin. Il a eu de magnifiques fleurs. Maintenant, les plantes sèchent. Peut-il récolter les topinambours et jusqu'à quand peut-il le faire ?
Alors, il peut récolter déjà dès maintenant. On parle de ces jolies fleurs de topinambour. Ça ressemble à des petits tournesols qui sont assez jolis, effectivement. Et puis, pour les conserver, ça se conserve moins une fois qu'ils sont déterrés. Donc moi, ce que je conseille de le faire, c'est de mettre un paillis qui fait en tout cas 15 bons gros centimètres de feuilles par-dessus, les laisser en terre comme ça, et puis comme ça, quand il veut les récolter, il enlève, il prend sa bêche, comme ça le sol n'est pas gelé, et puis il en récolte quelques-uns pour sa consommation. C'est difficile à nettoyer, hein, les topinambours, donc j'ai eu une astuce pour les nettoyer, c'est de les mettre dans un panier avec ces espèces de grillages, puis les gens les mettent passer à la rivière. Et comme ça, l'eau de la rivière, avec le courant, fait que ça les nettoie sans se forcer.
Il faut avoir une rivière.
Il faut attendre qu'il pleuve.
On les prend sous la douche, sinon.
On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Tom, le jardinier, 0900 70 20 20. Ne faites pas les timides. 7h18, on est avec vous. On attend vos questions pour 36 centimes par minute. Et sinon, vous avez toujours l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, et vous envoyez votre message au 939 ou via le formulaire sur nos sites internet sous l'onglet émission questions jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
0901 70 20 20, c'est le numéro qu'il faut composer pour poser directement vos questions à Tom, le jardinier. C'est ce qu'a fait Lucienne, Raphaël.
Exactement, Lucienne qui nous appelle de Baule. Bonjour Lucienne.
Bonjour.
Bonjour.
Votre question, faites-vous plaisir à notre spécialiste Tom le jardinier.
C'est bien. Alors, j'aimerais savoir comment et quand faut-il tailler un figuier. Première question.
Le figuier, il se taille généralement, on peut commencer à le tailler, moi j'aime bien qu'on le taille au début du printemps, comme ça il repart directement et les plaies cicatrisent beaucoup plus rapidement parce que le figuier a tendance à ne pas aimer trop la taille, pas trop de grosse taille.
Début du printemps.
Oui.
Et puis à une hauteur de combien? Parce qu'ils sont assez grands les miens, j'aimerais bien les tailler.
Alors ça, c'est un petit peu à vous de décider, puis aussi la forme que qu'a le figuier. Ouais. Chez moi, j'en ai un, il fait bien 5 mètres de haut et je le laisse grimper.
Oui, alors.
Mais il faut un peu de décider la taille que vous voulez, pas qu'il soit... Moi, je dis qu'on évite de faire des tailles supérieures à une pièce de 5 francs sur un figuier. Donc...
Donc dans les branches, d'accord.
Ouais.
Alors, parce que, comprenez, il faut les couvrir hein, à cause des oiseaux. Alors, j'aimerais bien les rabattre davantage.
D'accord. Ça devient un peu... sur un escabeau, ça devient un peu dangereux.
Oui, d'accord. Et puis maintenant, la deuxième question. Écoutez, j'ai mon mandarinier. Il est vraiment, mais tout en fleurs. Est-ce que c'est normal?
Alors, les agrumes, ils font souvent des fleurs sur les quatre saisons et des fruits sur les quatre saisons aussi. Donc, on peut en récolter tout au long de l'année. Ça veut dire qu'il se plaît bien?
Ah, ben, c'est bien.
Il est heureux chez vous, tant mieux.
Je suis contente. Mais vraiment, en fleurs. Mais parce que je me suis dit, tout d'un coup, il ne pourra pas me faire des fruits l'année prochaine. Mais comme vous dites qu'il peut faire des fruits toute l'année, alors c'est bien.
Il peut faire des fleurs et avoir des fruits en même temps.
C'est bien, d'accord. Alors, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup.
Et merci de votre appel, Lucienne. Une toute belle
journée.
Un tout bon week-end à vous.
Merci beaucoup, Lucienne. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les agrumes, Tom, si ça vous va. Là, Lucienne nous a parlé des mandarines. Elle habite à Baule, dans le canton de Neuchâtel. Je pense que ça doit être entre 400 et 500 mètres d'altitude. On peut avoir des mandarines en Suisse, ici. Enfin, pas au Tessin, mais dans nos régions.
Alors, oui, mais le principal problème, c'est souvent qu'il faut les rentrer en hiver. On n'a souvent pas les endroits idéaux pour les conserver. Donc, on les met souvent dans des pièces trop chauffées. Et ils ne supportent pas tellement. Donc, le mandarinier, ça aime bien avoir une petite période de froid en hiver. Pas trop froid pour ne pas qu'il gèle, mais juste comme ça, ça stimule l'apparition de fleurs.
Je suis soufflée. Je ne pensais pas qu'il y avait des mandarines en Suisse. Et c'est la même chose pour le citron et ces choses-là?
Oui, la même chose.
On va
continuer par téléphone, 0900 70 20 20. Et cette fois-ci, c'est Christine de Hall qui a une question pour notre spécialiste. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais poser une question. J'ai des canards qui sont dans des gros pots. J'aimerais savoir si je dois les enlever du pot ou si je peux les rentrer simplement comme ça.
Alors, les canas, ça fait une espèce de racine un petit peu charnue comme ça. Donc oui, c'est possible de les rentrer comme ça, mais c'est toujours plus facile et mieux indiqué si on les... Moi, je les laisse directement en pot et je les arrose comme ça, pas trop l'hiver, pour qu'ils aient une période un petit peu plus sèche. Aussi les mettre dans un endroit hors gel, mais sans lumière, ça va aussi, et les ressortir au printemps.
Donc je peux les laisser carrément comme ça, simplement les couper, les mettre à l'abri du gel.
Alors,
veiller qu'ils ne soient pas trop secs et entre deux, quoi.
Voilà, et puis normalement, si vous ne les avez pas trop arrosés jusque maintenant, ils commencent un petit peu à jaunir, donc le feuillage commence à jaunir.
Bon, arriver à arroser, s'ils sont dehors, je les ai déjà retirés un petit peu à l'abri pour qu'ils ne soient pas trop, trop mouillés, donc je peux les rentrer comme ça.
Pas de problème.
Alors, merci bien.
Merci à vous, Christine. Un tout bon week-end. Au merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Posez directement vos questions à Tom. Il y a toujours le SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939 ou sur les formulaires disponibles sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions au jardinage. On va faire
une petite pause.
Bah oui, une petite pause s'impose. La citation, voilà. On se retrouve juste après une pause météo et info route, à tout de suite.
7h, 8h, les jardinières, les jardinières.
Suite des jardinières, et comme chaque samedi matin entre 7h et 8h, vous avez la possibilité de poser vos questions jardinage à notre professionnel de la branche. Ce matin, c'est Tom, le jardinier, qui répond à vos questions.
Et justement, on attend vos questions jusqu'à 8h par téléphone. Faites comme Lucienne de Beaule ou encore Christine de Hallée. 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous posez directement votre question à notre spécialiste. Et si vous êtes un petit peu trop timide, comme certains l'ont fait il y a quelques minutes en arrière, vous tapez jardin par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question. Vous envoyez tout ça au 939. Autrement, vous avez encore l'option formulaire. Les formulaires que vous trouvez sur nos sites web sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Et sans plus attendre, on enchaîne avec une question reçue par SMS. Une personne qui nous dit être à 1000 mètres d'altitude. Est-ce que faire geler les oignons pourris élimine la maladie? Bonjour et merci.
Alors, déjà, les oignons, soit on en plante des petits bulbes, soit on les sème. Donc, faire pourrir des anciens oignons ne va en rien créer des nouvelles... pour les nouvelles cultures, ça ne va rien changer. Par contre, deux, trois petites choses qui peuvent être faites, s'il a des maladies régulièrement sur ses oignons, c'est faire des bonnes rotations de culture. C'est-à-dire ne pas mettre des oignons sur la même parcelle qu'il a cultivé pendant en tout cas 3 à 4 ans.
Mais si ces oignons étaient malades, on peut par exemple les déplacer, mettre des poireaux à la place?
Alors,
au hasard, un poireau.
Les poireaux font partie de la même
chose.
Famille que les oignons. Donc on va éviter, on peut passer par exemple sur des tomates, sur des aubergines. Bon, à 1000 mètres d'altitude, les aubergines, on va peut-être éviter. Mais des épinards, des salades, enfin il y a tout un tas de légumes qui ne font pas partie de la famille des aliacées. Donc l'ail, l'oignon, le poireau, on va éviter.
Merci Tom.
On espère avoir répondu à notre auditeur et faites comme lui, hein, continuez à nous écrire par SMS comme l'a fait également Nicole. Bonjour, j'ai des étoiles de Noël depuis l'année passée. Comment faire pour avoir des fleurs rouges? Merci d'avance.
Alors déjà, félicitations pour avoir gardé une étoile de Noël pendant une année parce que souvent elles sont dans des mauvaises conditions et elles dépérissent assez vite après. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut essayer déjà deux choses. Mettre son étoile de Noël dans un endroit où il y a moins de lumière du jour, il y a moins de lumière du jour que de nuit. Donc, ce qu'on appelle faire du photopériodisme, donc mettre cette dans des conditions de lumière particulières, où c'est qu'il y a vraiment plus de nuit que de jour. Deuxième chose, c'est qu'on va éviter de mettre un engrais spécial plante verte. On va plutôt mettre un engrais pour les géraniums ou pour les fruits qui sera plus adapté à la floraison des plantes.
Et puis on peut rappeler que ces étoiles de Noël, les paillettes ont été rajoutées dessus.
Voilà,
sans option.
Elles ne pousseront pas avec la fleur.
Merci Mylène.
Mais avec plaisir, mais je pense
non,
que c'était important.
Non mais c'était très important de le préciser.
Oui. On va continuer avec une question de Pascal qui vit à Dombresson et qui a un grand jardin et qui rêve d'art taupière. Alors, si jamais l'art taupière, ça consiste à tailler les arbres et arbustes de jardin dans un but décoratif, par exemple des animaux ou bien simplement un rond. Voyez le genre.
On dit merci Wikipédia pour la description, oui, Mylène, ou comment?
Oui, merci Wikipédia. Bon, bah, Pascal aimerait se lancer dans cet art. Alors, quels arbres ou quels arbustes se prêtent le plus pour cette activité, Tom?
Alors, première chose, je conseille à notre ami Pascal qui va tailler ses plantes de prendre un livre ou de s'enseigner vraiment sur comment bien tailler les bonnes périodes et vraiment le matériel adapté, parce que ça peut souvent créer si c'est fait dans des mauvaises périodes, ça crée des plaies qui risquent d'être infectées par des maladies. Deuxième chose, donc il demande quelle plante il peut avoir pour faire son art taupière. Donc on voit souvent, très 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 souvent, des buis pour faire de l'art taupière. Je commence à les éviter parce qu'il y a la pyrale du buis. C'est un papillon qui va faire des chenilles qui peut ravager en 3 jours totalement nos buis. Donc on va essayer d'éviter ces plantes. On va plutôt passer sur du chèvrefeuille arbustif. Son petit nom latin, c'est Lonicera nidita, qui est la première plante assez facile pour commencer l'art taupière. Sinon, le troène et le houx, qui sont des plantes qui peuvent être taillées de cette manière.
Merci Tom. Est-ce que vous pratiquez l'art taupière vous-même?
Alors, pas tellement, si ce n'est de tailler des haies assez droites.
Ce qui est déjà très important, on va le dire, hein, on va le rappeler. On vous rappelle également les numéros pour nous joindre, 0900 70 20 20, pour parler directement à notre spécialiste qui est Tom le jardinier ce matin. Et sinon, pour les timides, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, et vous envoyez tout ça au 939, ou toujours nos formulaires qui sont disponibles sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions ou jardinières. Morissette de Bienne nous dit qu'elle a des aiguilles de pin à profusion. Est-ce que les paillis à base d'aiguilles de pin peuvent être utiles pour ces cultures? Et si oui, lesquelles?
Les aiguilles de pin apportent de l'acidité dans le sol. Donc pour toutes les plantes de terre de bruyère, comme les rhododendrons et compagnie, c'est efficace pour un paillis. Et ça peut être ajouté à ces fraisiers au printemps qui vont apporter un petit peu plus d'acidité et ça va un peu renforcer le goût des fraises.
Merci Tom. On va parler de plantes envahissantes. C'est José de Cormoret qui nous dit: mes piliers de clôture, mes arbres et ma haie de thuya sont envahis de lierre. Existe-t-il un produit pour éliminer cette plante très envahissante?
Alors, le produit s'appelle huile de coude sécateur. Parce que on va éviter de traiter pour du lierre. En fait, il suffit de l'arracher régulièrement une année. Ça va épuiser ses ressources et il va déjà diminuer à vue d'œil et par partir. Il faut éviter de laisser des morceaux dans le terrain, mais sinon, on y arrive à bout assez facilement. C'est encore pas du liseron, hein, voilà, qu'on connaît.
Est-ce que le lierre, il faut le hacher avant de le mettre au compost ou il faut éviter de le mettre au compost?
Alors, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec du lierre dans le compost, parce qu'après, il va être recouvert par d'autres déchets organiques, et il va être recouvert, et il va pas résister.
Merci Tom. On rappelle...
0 900 70 20 20, ça c'est le numéro pour nous appeler. Il vous reste 5-6 minutes pour le faire si vous avez votre question pour Tom le jardinier. Autrement, vous passez par l'option SMS ou par l'option site internet avec nos formulaires. Formulaires comme l'a fait Xavier, ma chère Mylène, qui a besoin de conseils pour son étang. Il a une petite mare. Alors attention, c'est très précis Tom, hein. Il a une petite mare de 1m50 sur 1m50. Et au printemps, généralement, il voit des grenouilles et des tritons, puis des libellules. Il aimerait y ajouter des plantes. Son étang a une profondeur de 50 cm. Est-ce le bon moment pour ajouter ces plantes et peut-il aller en chercher au bord du lac?
Alors, première chose, on va essayer d'éviter d'aller les chercher au bord du lac parce qu'il y a des plantes qui sont protégées. Donc, on ne voudrait pas créer des problèmes en prenant des plantes protégées. Donc, pour les plantes, je lui conseille d'aller dans une jardinerie. On trouve souvent, au printemps, des grands bacs remplis d'eau avec des plantes dedans. Donc, il peut... Avec la taille de cet étang, il peut même mettre déjà des nénuphars. Sinon, il y a des iris, des marais iris, pseudacorus, qui sont très décoratifs avec des magnifiques fleurs jaunes. Et puis, il peut regarder ce qu'il trouve dans les jardineries. Moi, j'aime bien les alismas, qui sont des petites fleurs blanches, qui sont assez légères. Et ça apporte souvent au bord des étangs un peu de plantes légères, parce qu'on a souvent les massettes, ce genre de choses qui sont assez volumineuses et imposantes. Puis cette plante-là apporte bien, bien de la légèreté.
Est-ce qu'il faut privilégier certaines plantes pour que les grenouilles ou les crapauds viennent pondre, ou pour les libellules qui puissent après monter leurs larves et faire sécher leurs ailes avant le décollage?
Alors ça, il faut regarder avec les graminées, qui sont des plantes qui sont souvent appréciées par les libellules, de ce que j'en avais déjà vu quand je me baladais au bord des Indes. C'est souvent vers les graminées un peu hautes qu'elles vont les libellules. Et puis pour les autres, ben, essayer de recréer une atmosphère qui soit le plus proche de la nature possible.
Merci Tom, on va enchaîner avec une question de Marc Desbreleux qui aimerait planter des échalotes. Est-ce le bon moment? Si oui, comment s'y prendre? Dans un endroit au soleil ou plutôt humide? Bref, il veut tout savoir sur l'échalote.
Alors, au Breleux, il y a bientôt la neige, hein, on ne va pas se le cacher. Donc c'est légèrement trop tard. Il aurait pu faire ça début octobre sans que ça pose trop de problèmes. Pour l'année prochaine, s'il veut planter des échalotes, il peut le faire au printemps ou à l'automne. J'y conseille, dans ces régions de montagne, on a souvent un sol assez argileux, donc qui retient bien l'eau, de bien mélanger du sable, et éventuellement, si vraiment c'est encore trop argileux, de faire des petites buttes, comme ça les échalotes ne sont pas plantées dans un endroit trop humide. Et puis sinon, on dit que l'échalote doit pouvoir voir le chapeau du jardinier, donc pas la planter trop profond.
Merci Tom. On a reçu un SMS, c'est pas vraiment une question.
Non, mais c'est plutôt un message qui fait plutôt plaisir. Voilà. À plus de 30 ans, mon cactus de Noël forme une boule de fleurs de 70 cm. C'est un vrai plaisir de le regarder chaque jour. Merci.
Tom, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un cactus de Noël ou pas du tout?
Oui, alors c'est une plante d'appartement. On parlait de photopériodisme avant. Mm-hmm. Donc il y a le cactus de Noël et le cactus de Pâques, qui sont pratiquement la même plante, sauf qu'il y en a une qui fleurit.
C'est même période où on mange du chocolat.
Pardon. C'est à peu près ça. Mais il y en a une qui fleurit en jour court, donc quand il y a plus de nuit que de jour. Et celle de Pâques va fleurir en période où il y a plus de jour que de nuit.
On félicite cette personne pour avoir gardé un cactus 30 ans et d'avoir cette magnifique boule de fleurs. Tom, il va être l'heure de passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Ce matin, nous avons parlé de paillis, d'échalotes, des temps, de plantes de Noël. Tom, dites-nous, qu'est-il encore possible de faire au potager avant l'arrivée du grand froid? Parce qu'il va bientôt arriver là.
Alors, j'ai déjà parlé pas mal du potager, mais on va un petit peu s'orienter vers les plantations. C'est la grande période pour planter les petits fruits, donc cassis, raisinets, mûres et framboises peuvent être plantés maintenant. Au verger aussi, c'est le moment de planter tout ce qui est arbres fruitiers, hautes tiges, basses tiges. C'est la grande période. Comme il fait encore pas trop froid, je conseille de pas encore tailler les arbres maintenant, il y a encore des feuilles sur les arbres, c'est un petit peu trop tôt. Et puis au jardin, c'est la grande période si on veut installer des rosiers, donc il faut y aller sans problème. On va dans les jardineries, on trouve souvent à cette période-là des rosiers à racines nues, donc pratiquement sans peau. C'est la meilleure période pour les planter, c'est des plantes qui sont moins chères, et puis c'est là où c'est qu'on en trouve le plus de variétés disponibles sur le marché.
Merci beaucoup Tom. Et juste avant de clore cette émission, moi j'avais une petite question pour toutes les familles qui ont fait des citrouilles pendant ce week-end d'Halloween et ces quelques jours d'Halloween. Est-ce que peut-être une petite recette, un petit aspect pratique pour utiliser ces courges avant qu'elles soient fichues?
Alors, première chose, il faut éviter qu'elles gèlent, parce que sinon elles vont venir toutes noires et elles seront pas très belles si elles n'ont pas été cuisinées. Donc c'est la première chose. Puis après, il faut aussi déjà faire attention aussi avec les bougies qu'on met dedans. Ça peut apporter un peu de la suie, donc on va éviter de manger de la suie. Et puis, la courge, on pense souvent de la manger salée en soupe ou dans des pâtes et tout ça, mais on n'oublie pas qu'on peut la consommer sucrée en gâteau, en tarte, en confiture.
C'est l'heure d'aller déjeuner là.
Il faut vraiment pas oublier ce côté-là. On a souvent tendance à oublier le côté sucré de la courge qui peut être délicieuse.
Merci Tom pour tous vos conseils.
Merci surtout aussi de vous être levé aussitôt pour rejoindre les jardinières ce matin et répondre aux nombreuses questions de nos auditeurs. On rappelle qu'on peut vous vous suivre sur les réseaux sociaux où vous partagez vos conseils jardinage mais aussi culinaires sur votre site sur le www.tomlejardinier.com. Bon retour et à très bientôt Tom.
À la prochaine.
Merci Tom. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h et nous serons accompagnés d'Olivier Ribaud. D'ici là, posez vos questions jardinage par SMS ou via le formulaire disponible sur nos sites web. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène et à samedi prochain.
À samedi prochain avec plaisir.
7h, 8h, les jardinières.